Alléluia. Si nous pouvons prier pour la parole de Dieu ce matin, si nous pouvons nous lever ensemble ce matin et prier pour nos cœurs, prier pour que le Saint-Esprit ce matin nous parle. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te remercions, Père, pour ces offrandes, ces louanges que nous t'avons apportées, Seigneur, dans nos cœurs. Nous te bénissons pour ce temps que tu as rendu favorable et que tu nous donnes ce matin. Saint-Esprit, nous te prions encore d'agir ce matin. Nous te prions de te manifester au milieu de nous ce matin. Nous te prions de te révéler encore pleinement ce matin. Que ta parole puisse encore forger nos cœurs, puisse encore, Seigneur, être semée au-dedans de nous, Père. Que nous puissions encore réagir à cette semence, Père, avec ferveur, avec force. Car tu nous as donné non un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un esprit, Seigneur, en nous qui crie Abba Père, parce que nous désirons le Père. Nous désirons ta présence ce matin, Seigneur. Nous refusons d'agir sans toi. Nous refusons d'agir sans ta présence, Saint-Esprit, ce matin. Nous refusons d'agir sans ta puissance ce matin. Nous voulons que tu sois au cœur de tout ce que nous allons faire ce matin. Alléluia. Nous nous plions à toi. Nous nous soumettons à ta direction ce matin. Que tu bénisses ton peuple qui est là ce matin, qui veut, Seigneur, encore être rempli de toi. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de passer encore ce culte avec le peuple de Dieu ce matin. Amen. Nous avons eu une journée assez mouvementée hier. Amen. Nous avons célébré des noces et nous nous sommes réjouis de voir qu'une fois de plus, la parole de Dieu s'est encore accomplie dans la vie de nos bien-aimés qui ont persévéré dans les voies des fiançailles. Ils ont obéi au Seigneur. Amen. C'est un témoignage pour nous. Nous étions avec eux pour être ses témoins et pour les soutenir. Nous avons demandé la bénédiction de Dieu sur leur vie. Amen. Et ce matin, nous sommes là quand même parce que le Seigneur nous a fortifiés. Le Seigneur nous a donné de nous réveiller. Amen. Malgré peut-être la fatigue du corps, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé Eude qui nous a introduit dans ces temps réellement de prière, amen, afin de déclarer des choses. Et donc, je m'efforcerai d'être assez court si réellement j'arrive et que ce que le Seigneur désire ce matin, que nous puissions encore prier ensemble, déclarer encore certaines paroles ce matin, que nous puissions le faire. Amen. En général, quand je dis je vais être assez court, c'est alors que je suis long. Mais que le Seigneur me fasse grâce ce matin. Amen. D'aller à l'essentiel et de libérer réellement le message que Dieu a mis dans mon cœur. J'avais un autre message. En tout cas, quand j'ai eu à cœur de venir, quand le pasteur m'a fait comprendre que je devais apporter la parole de Dieu, j'avais un autre message qui était venu dans mon cœur. Mais le Seigneur m'a dit peut-être pas maintenant. Amen. J'ai partagé peut-être avec quelques personnes une partie de ce message, mais le Seigneur m'a dit peut-être que quand l'occasion sera donnée, je ramènerai ce message. Alors, si je peux intituler mon thème ce matin, j'aimerais que tu dises avec moi ce matin, c'est ma saison. Alléluia, nous déclarons cela ce matin, c'est ma saison. Et au fur et à mesure, nous allons avancer, nous allons comprendre pourquoi ce matin Dieu nous permet de déclarer notre bouche, c'est ma saison. En introduction, la parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre de Jean, au chapitre 16, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous parle du Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde de jugement, de justice et de péché. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de lui. Parce que le Seigneur promet aux disciples en disant dans les actes des apôtres que vous recevrez une puissance qui fera de vous des témoins. Amen. Nous avons compris au travers des temps qu'il était important que la Pentecôte vienne. Le peuple de Dieu Israël a traversé des moments de désert, a traversé des moments d'absence où Dieu ne parlait plus pendant des temps. La Bible nous dit que les messages se faisaient rares. Amen. Et Dieu envoie Jean-Baptiste qui va préparer le terrain, qui va annoncer qu'il y a quelqu'un qui vient. Amen. Qu'il y a le Messie qui vient, qu'il y a le messager de Dieu qui vient pour apporter réellement le salut qui avait été tant promis. Alors pendant ces temps de sécheresse, les cœurs étaient endurcis, les cœurs étaient fermés, le peuple de Dieu avait abandonné les voies du Seigneur. Même le service dans les temples ne tenait plus et n'apportait plus la solution qu'il fallait. Et l'agneau de Dieu arrive, celui qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ va paraître en son temps et Jean-Baptiste va nous attester que lui, il baptise d'eau, mais celui qui vient, lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alors, pendant que Christ apporte son message, pendant que Jésus fait son ministère, prêche l'évangile, annonce réellement le salut que le Père désire accorder à l'humanité, il fait comprendre qu'il est préférable qu'il s'en aille. Amen. Afin que le Saint-Esprit nous soit donné. Et le Saint-Esprit devait faire de nous des témoins, devait nous revêtir d'une puissance extraordinaire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais premièrement, il devait convaincre nos cœurs. Il devait briser les cœurs, il devait permettre à ce que la semence qui est Jésus-Christ entre dans les cœurs. Amen. Puisque nous pouvons voir que le ministère de Jésus, pendant qu'il prêchait, la Bible dit « beaucoup ont cru ». Mais ils avaient aussi peur. Peur de manifester leur foi en public. Amen. De peur d'être repris par le Sanhédrin ou de peur d'être mal, d'être peut-être éradiqué du temple. Alors, beaucoup vont subir la main de Dieu, vont être guéris, vont être libérés, vont être délivrés. Amen. Et vont croire et vont persévérer avec le Seigneur. Amen. Mais la Bible nous montre la faiblesse de l'engagement. Pierre qui dira à Jésus, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. On se rend compte que finalement, lorsque la persécution est venue, il a abandonné. Amen. Donc, la parole du Seigneur avait son importance. Il était préférable qu'il s'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Amen. Alors, la Bible nous dit que les apôtres ont persévéré dans la prière, dans la chambre haute, et il y a eu la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui avait été promis est descendu sur eux. Amen. Alors, les disciples ont été transformés au-dedans d'eux. Ils ont été revêtus de force, de courage. Pierre s'est levé et il va annoncer l'évangile. Amen. Dans les actes des apôtres, Pierre va nous révéler une chose. Pendant qu'on pensait qu'ils étaient ivres, Pierre va révéler que ce qui est en train de se passer avait été déjà annoncé dans Joël. Amen. Et que le Saint-Esprit, ce mouvement de l'Esprit, cette pluie de feu qui était descendue, était la promesse que Dieu avait faite. Que dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Alors, Pierre va saisir dans l'esprit que le temps était accompli, que la promesse de Dieu d'envoyer son esprit est arrivée. Amen. Et donc nous allons voir que la semence qui est Jésus-Christ va commencer à produire un fruit dans les cœurs. Amen. Parce qu'il y a eu cette pluie de Dieu. Le Saint-Esprit va venir, les disciples vont être multipliés. Amen. Vont se lever et vont partir annoncer l'évangile. Mais quand nous regardons dans les promesses de Dieu, Dieu promet deux choses. Il dira dans Deutéronome au chapitre 11, au verset 13, en parlant à Israël, Dieu dira, si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie du printemps. Et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. Amen. Dieu promet à Israël deux mouvements, deux pluies. Dans d'autres versions, il écrit la pluie de l'arrière-saison, ou plutôt la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et alors que Joël va saisir dans, alors que Pierre va saisir dans Joël au chapitre 2, la promesse de Dieu d'envoyer son esprit, mais il y a un élément important qui va être mentionné avant cela. Si nous prenons ensemble le livre de Joël au chapitre 2, à partir du verset 23, la Bible déclare, et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu, lui qui est votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Amen. Alors, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, sauterelles, criquets, grillons et vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Amen. Là, c'est ce que Pierre va révéler, que la Pentecôte, c'était cette promesse que Dieu donne au travers de son serviteur Joël. Amen. Mais avant cela, la Bible nous parle de deux pluies. La pluie de l'automne, la pluie de la première saison, et la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie du printemps. Amen. Alors, je suis entré en profondeur et je priais, je posais la question, Seigneur, mais pourquoi ces deux pluies? Amen. La Bible nous dit, la nature nous enseigne. Quand nous regardons la pluie de l'automne, elle a son importance. Et quand nous regardons la pluie du printemps, elle a aussi son importance. La pluie de l'automne, elle vient après la sécheresse, elle vient après l'été, où le soleil a asséché toute chose. Amen. Alors cette pluie, elle vient pour préparer le terrain. Cette pluie, elle vient préparer la terre pour que la semence puisse non seulement entrer en terre, mais qu'elle puisse porter un fruit. Amen. La pluie de l'automne, elle est importante parce qu'elle permet à ce que nous puissions travailler la terre pour la semence qui va venir. La Bible nous fait comprendre que l'hiver va arriver où réellement la nature va céder. Les feuilles vont disparaître, n'est-ce pas? C'est comme s'il va y avoir un endormissement de la végétation. Amen. Pourtant, cette pluie vient après la sécheresse. Elle est censée amener de l'abondance. Amen. Mais on se rend compte qu'il y a l'hiver qui vient. Donc cette pluie qui vient, elle a son importance. La Pentecôte qui va arriver, qui va réellement représenter cette pluie de la première saison, va permettre que Christ, qui est la véritable semence, puisse entrer dans les cœurs qui étaient fermés par la sécheresse. Là où il n'y avait plus de vie, il y avait l'abandon de Dieu, le Seigneur va faire comprendre, Jean-Baptiste va dire qu'il vient préparer le terrain. Amen. Christ va être semé sur la terre, va être semé dans les cœurs, lui-même le dira qu'une graine, pour porter du fruit, doit mourir. Elle doit entrer en terre. Amen. Alors, la pluie de l'arrière, de la première saison, qui est la pluie de l'automne, viendra pour permettre à ce que la semence puisse entrer et porter un fruit. Amen. Alors, il va y avoir un mouvement extraordinaire qui va se faire. Ceux qui réellement avaient abandonné le Seigneur vont croire. Ceux qui avaient perdu l'espoir vont reconnaître que Jésus-Christ, qui est mort pour nous, a pris nos fautes, a pris nos faiblesses, a pris nos malédictions, amen, a brisé nos chaînes. Les cœurs vont commencer à se réjouir et les âmes vont se lever. Un réveil extraordinaire va se faire partout dans le monde. Amen. La Bible nous fait comprendre que les disciples vont se lever et aller annoncer l'évangile. Mais quand nous regardons dans les temps dans lesquels nous vivons, amen, nous rendons compte que Paul annonce une chose en disant dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Pourtant la Pentecôte elle est venue. Pourtant l'Esprit de Dieu a été répandu. L'Église est née. Amen. Les hommes annoncent l'Évangile. Les cœurs sont touchés. Amen. Nous voyons beaucoup qui viennent à Jésus. Pourtant, nous nous rendons compte que nous vivons un air où il y a beaucoup d'abandon de la foi. Beaucoup abandonnent le ministère. Beaucoup sont déçus par les églises. Beaucoup ont arrêté de prier. Amen. Alors, au milieu de cela, il y en a qui persévèrent, il y en a qui tiennent ferme et qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur parce qu'ils désirent le retour du Seigneur. Ils ne désirent pas rater ce jour glorieux, ce jour merveilleux. Amen. La Bible nous parle de ces femmes, de ces cinq femmes sages et de ces cinq femmes qui étaient un peu insensées, qui avaient laissé leur lampe éteinte. Amen. Donc nous vivons ces temps où, alors que d'autres persévèrent, d'autres abandonnent, sont déçus. Amen. Pourtant, nous continuons à demander, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit descende. Nous voulons la Pentecôte. Et d'autres même se disent, ben, la Pentecôte est déjà arrivée. Alors nous avons des combats de doctrine, des combats de religion. D'autres se disent, non, il ne faut plus invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu. Il y en a qui disent, j'ai déjà le Saint-Esprit. Donc il y a une confusion. Amen. Mais dans cette confusion, Dieu nous dit que nous devons annoncer l'évangile et gagner des terrains. Gagner des nations. Alors que d'autres se disent, ben, nous ne pouvons plus invoquer le Saint-Esprit. D'autres se disent, non, par orgueil, moi j'ai le Saint-Esprit. Parce que c'est devenu un combat pour se dire qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui prie en langue a le Saint-Esprit, celui qui ne prie pas en langue n'a pas le Saint-Esprit. Donc c'est une confusion. Amen. Il y en a qui manifestent les dons de l'Esprit. Il y en a qui sont critiqués parce qu'ils manifestent les dons de l'Esprit en disant que non, ils le manifestent par le fétichisme. Alors, on est dans une confusion et l'abandon de la foi s'installe. D'autres sont séduits, entrent dans la corruption. D'autres essaient de persévérer, mais on ne les voit pas parce qu'ils ne cherchent pas à paraître devant les hommes. Ils travaillent dans le secret. Alors, le monde qui est censé et qui désire la révélation des fils de Dieu ne voit pas la révélation des fils de Dieu comme le Seigneur nous l'a annoncé. Amen. Mais quand nous regardons et scrutons les Écritures, nous nous rendons compte que Dieu a promis deux mouvements. Il a promis la pluie de la première saison, mais il a promis aussi la pluie de l'arrière-saison. Parce que la pluie de l'automne, elle a son importance, mais la pluie du printemps aussi a son importance. Amen. Alors nous regardons la parole de Dieu. Zacharie au chapitre 10 nous dit, demandez la pluie du printemps. Amen. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi la pluie du printemps? Zacharie chapitre 10, verset 1 nous dit, « Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages et vous accordera une pluie abondante qui fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. » Amen. Inévitablement, nous comprenons une chose importante. Alors que Jésus-Christ parle dans Jean 16 et qu'il annonce le mouvement de l'Esprit et l'action de l'Esprit, j'ai été impressionné parce qu'il dit en bas, il dit, « Il y a une chose. » Que jusqu'ici, vous ne m'avez pas demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on devait demander pour que notre joie soit parfaite? Devions-nous demander une bénédiction? Est-ce que les disciples devaient demander une bénédiction? Seigneur, bénis-nous dans notre travail, bénis-nous dans nos entreprises. Certainement pas. Amen. Parce qu'auparavant, Jésus leur dirait, recherchez premièrement le royaume des cieux, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Mais je pense que dans les derniers temps dans lesquels nous vivons, l'Esprit de Dieu nous permet de discerner que nous avons besoin Du Saint-Esprit, certes, mais nous avons besoin du Saint-Esprit dans une autre mesure. Amen. Parce que la pluie du printemps, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet qu'il y ait une restauration de la végétation. Elle permet que tout ce qui était endormi par l'hiver puisse revenir à la vie. La pluie du printemps permet à ce que la semence, non seulement qui a commencé à pousser, mais puisse entrer à maturité, parce que la moisson doit arriver. Amen. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que, alors que l'Église est en train de se battre, parce que la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors », alors que l'Église est en train d'annoncer l'Évangile, est en train de prêcher Christ, alors que la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, est en chacun en train d'agir, mais nous savons que le retour du Seigneur, la Bible dit, sera marqué par quelque chose d'impressionnant. Le retour du Seigneur ne se fera pas dans cette circonstance où l'Église est dans un flou total. Elle ne se fera pas dans cette circonstance où les gens dorment. Le retour du Seigneur sera marqué par un mouvement extraordinaire de Dieu. Alléluia. Et ce mouvement ne doit pas seulement être une promesse que nous attendons, mais ça doit être quelque chose que nous demandons. La Bible déclare « Hâtez le retour du Seigneur ». C'est un désir que nous voulons que le Seigneur revienne. Amen. Et pour cela, la Bible déclare que si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il y a une chose. C'est que Dieu dit que tous ceux qui doivent entrer ne sont pas encore entrés. Mais ce n'est pas seulement ceux qui doivent entrer. C'est parce que l'Église doit être préparée, doit être prête au retour du Seigneur. Mais quand nous regardons aujourd'hui, l'Église n'est pas prête. Pour que l'Église entre en maturité, elle a besoin de la pluie du printemps. Amen. C'est la pluie du printemps, c'est la dimension du Saint-Esprit qui vient dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, qui va emmener l'Église à être prête. Parce que l'Église ne va plus fonctionner comme elle fonctionne en cherchant ses intérêts, mais elle va comprendre que l'Église doit entrer dans une dimension d'unité, où il n'y a plus de division, il n'y a plus de religion qui compte. Mais c'est les fils de Dieu qui ont compris qu'ils doivent demander au Père, alléluia, de déverser une pluie qu'il avait promis. Pas seulement comme lors de la Pentecôte, mais une pluie extraordinaire qui va emmener les fruits, qui va emmener l'Église à entrer dans la maturité. Alléluia. Nous avons besoin de la pluie du printemps. Amen. Ceux qui hésitaient en disant, devons-nous encore attendre la Pentecôte, bien-aimés? Le Saint-Esprit, nous devons toujours le demander. Dieu dit, il y a une chose que vous ne me demandez pas. J'ai annoncé que le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est venu. Amen. Il est venu, la Bible déclare que Dieu a donné à son Fils l'Esprit sans mesure. On ne mesure pas la quantité du Saint-Esprit ici. Je ne parle pas de la mesure du Saint-Esprit dans nos vies. Moi, je crois que nous avons reçu pleinement le Saint-Esprit. Amen. Mais nous devons comprendre une chose simplement, c'est que beaucoup vivent sous une autre saison. Ils vivent sous la saison où la Bible nous dit que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont accompli de grandes choses extraordinaires. Alors les prédications, les messages, les exhortations que nous apportons, nous nous référons à une saison qui est la saison des apôtres. Lorsque nous voulons parler du réveil, nous parlons du réveil que les apôtres ont vécu. La Bible dit que lorsque la Pentecôte est arrivée, les apôtres se sont levés, ils ont prêché l'évangile, il y avait 5000 âmes qui étaient touchées, les gens étaient convertis. Mais Dieu te pose la question ce matin, toi en quelle saison es-tu? Tu es dans ta saison. Amen. Et dans ta saison, tu dois aussi porter du fruit. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11 verset 13 que Jésus marchait avec les disciples et qu'il se retrouve devant un figuier. Et qu'il désira manger le fruit qui venait de ce figuier. Amen. Mais la Bible déclare que le figuier n'avait pas donné de fruit. Amen. Et la Bible nous explique que c'est parce que ce n'était pas la saison. Parce que ce n'était pas la saison. Donc, le figuier, à un moment donné, comme ce n'était pas sa saison, il n'a pas donné de fruits. La Bible vient nous expliquer. Aujourd'hui, les chrétiens nous expliquent que si je ne porte pas de fruits, c'est parce que ce n'est pas ma saison. C'est parce que ce n'est pas mon temps. J'attends quand j'aurai 30 ans, j'entrerai dans mon ministère. J'attends ma saison qui va arriver.
Bien-aimé, est-ce que tu veux que je te dise le sort qui a été réservé à ce figuier? Dieu a maudit le figuier. Parce que pour Dieu, il n'y a pas d'excuse de saison. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 1 que nous sommes comme un arbre planté qui porte du fruit en sa saison. D'autres versions. Et moi, je comprends en toute saison. Alléluia. Tu es planté près d'un courant d'eau et tu portes du fruit en toute saison. Amen. Nous sommes appelés à porter du fruit en toute saison. Et moi, je viens te dire ce matin que c'est ta saison. Amen. Et si tu te rends compte que tu ne portes pas de fruit, il y a un problème, bien-aimé. Si tu attendais dans 10 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu attendais que l'année prochaine, tu puisses porter du fruit lorsqu'on va te consacrer, c'est que tu n'as pas compris une chose. Amen. Que c'est maintenant que tu dois porter du fruit. Parce que c'est ta saison. Amen. Dieu veut manger les fruits maintenant. Alléluia. Dieu veut manger les fruits maintenant. L'Église n'attend pas à ce que le retour du Seigneur vienne comme si on nous annoncera une année. La Bible déclare que le retour du Seigneur se fera de manière à ce que personne ne s'attendra réellement à cela. Ça nous surprendra. Amen. Alors si la Bible dit le retour du Seigneur va nous surprendre, bien aimé, ça veut dire que tu es dans ta saison. Alors je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu dois porter du fruit. C'est maintenant que tu dois te lever et agir. C'est maintenant que tu dois impacter, bien-aimé. Amen. C'est maintenant que tu dois comprendre que Dieu te dit une chose. Qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas encore demandé. Demande-moi afin que ta joie soit parfaite. Et Zacharie nous dit la chose que tu dois demander. C'est dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi la pluie du printemps. Amen. Donne-moi la pluie du printemps. Permets-moi d'entrer réellement dans l'identité que tu m'as donnée. Permets-moi d'entrer dans l'action à laquelle tu m'appelles. Ne raconte pas seulement ce qui s'est passé à la Pentecôte, qu'il y eut des langues de feu, que le Saint-Esprit est descendu et que réellement les apôtres ont agi. Tu dois comprendre que tu es appelé maintenant et aujourd'hui, toi aussi, à impacter. Alléluia. Alors si tu ne le fais pas, tu dois demander à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'impacte pas? Parce que si les apôtres dans leur saison ont accompli ces choses extraordinaires, Dieu t'appelle à accomplir la même chose. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que l'Église n'arrive pas aujourd'hui à accomplir les choses qu'il doit accomplir dans sa saison. Amen. Pourquoi? Pourquoi l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi les enfants de Dieu se sont endormis alors que la pluie de l'automne est passée? Pourquoi ils se sont endormis pendant l'hiver? Le Seigneur revient bientôt, la Bible nous dit. Amen. Et le Seigneur vient chercher une Église qui est prête. Mais aujourd'hui, le langage de l'Église, c'est que nous nous préparons. Nous nous préparons au retour du Seigneur. Amen. Combien de temps tu prends pour te préparer? Si depuis la période des apôtres, l'Église est en train de se préparer. Mais l'Église se préparait dans l'action. Amen. La Bible nous montre combien les apôtres ont agi en leur saison de manière incroyable, extraordinaire. Amen. Ils ont bâti l'Église, ils ont bâti des fondements solides. Et aujourd'hui, alors que ces fondements, en apparence, sont en train d'être ébranlés, pourquoi je dis en apparence? Parce que le fondement de Christ est solide. Il ne peut pas être ébranlé. Amen. Le fondement des apôtres sur lequel ils sont bâtis est solide. Amen. Même si l'Église rentre dans la confusion des doctrines, si l'Église rentre dans la confusion de la compréhension de la parole de Dieu, dans les guerres, dans les disputes, dans les divisions, amen, il y a une chose qui est claire que l'Église doit savoir. Elle a besoin de la pluie du printemps pour entrer dans la maturité. La Bible nous dit dans Éphésiens que le Seigneur a envoyé les ministères pour le perfectionnement des saints.
en vue du ministère, mais pour un but, pour que les chrétiens entrent dans la stature parfaite de Christ. Amen. Pour que nous puissions entrer dans la stature de Christ. Ces ministères ont été donnés pour former, pour perfectionner les saints. Mais les saints doivent entrer dans leur ministère. Ce n'est pas le temps où les ministères sont réservés à quelques-uns. Chacun de nous doit entrer. Et dans sa saison, doit porter du fruit. Amen. Je dois porter du fruit. C'est ma saison. Amen. Je dois nettoyer mon air. Tout autour de moi, il faut que quelque chose se passe. Amen. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer en Bretagne. Là où je suis, je suis venu avec deux jeunes qui sont en train de faire leur chemin avec le Seigneur. Il y a un qui vient de la Nouvelle-Calédonie, qui vient de loin et qui arrive dans une ville perdue de Pontivy. Amen. De quelques 30 000 habitants. Un jeune frère que j'ai rencontré à mon travail qui aujourd'hui est en train de persévérer, qui désire ardemment le Seigneur. Nous sommes un petit nombre. Amen. Nous sommes un petit nombre de bien-aimés, de frères qui se retrouvent et qui sont en train de persévérer. Mais j'ai eu un témoignage fort qui m'a marqué. Le week-end dernier, nous étions dans un mariage. Et alors que nous étions à ce mariage, au niveau de la mairie, pendant que madame la mère était en train de célébrer le mariage, elle donne le témoignage de la vie de ce frère avec qui nous évoluions là-bas. Elle faisait comprendre que ce frère dans la communauté, en tout cas, avait pris une place très importante, lui et son épouse. Amen. Et pendant que nous étions en train de faire la bénédiction de ce mariage, j'aperçois madame la mère. J'étais impressionné, je pensais qu'elle allait rester juste à la mairie après la bénédiction, mais elle est venue à la célébration. Et pendant que l'orateur était en train de prêcher, il nous a parlé sur la repentance pour permettre à ce que les cœurs soient touchés, que les cœurs acceptent Jésus-Christ. Je me suis rendu compte qu'il y a une prière que nous avons faite, où nous avons dit, Seigneur, la ville de Pontivy, nous la prenons dans le nom de Jésus. Cette ville, nous la prenons et nous voulons impacter cette ville. Amen. Et de voir vraiment que les autorités de la ville puissent venir à ce simple mariage, même si ils pouvaient connaître ce bien-aimé, mais c'est un ouvrier de la mairie. Amen. Donc rien ne les obligeait à venir. Mais le fait qu'ils viennent et qu'ils écoutent l'évangile, cette femme était attentive du début jusqu'à la fin. Et même pendant qu'on faisait le vin d'honneur, elle était présente. Amen. J'ai compris qu'il y avait un mouvement de l'esprit qui agissait dans cette ville. Et il y a un frère qui recevait et qui disait que pendant qu'il y avait la fête de la musique, lui, il se baladait, il observait, il dit dans l'esprit, le soir, Dieu lui dit que les murailles de Jéricho sont en train de tomber. Que la ville est en train d'entrer réellement dans sa conquête. Amen. Et j'ai compris là que c'était le mouvement de l'esprit parce que nous avions compris que nous devions demander le Saint-Esprit, mais dans une autre manière. Nous ne devons pas demander seulement en disant que nous avons le Saint-Esprit, mais nous devions comprendre, Seigneur, que les apôtres ont fait et ont posé les bases et les fondements. Amen. Et ont agi en leur saison. Mais nous-mêmes, nous avions besoin aussi d'agir en notre saison à la dimension même plus que ce que les apôtres ont accompli. Parce que nous devons comprendre une chose, que Jésus-Christ dit une chose. Il dit que les apôtres allaient accomplir des choses même plus que ce que lui il a fait. Pas pour dire que l'élève est plus grand que le maître, mais pour dire simplement que pendant qu'il était là et qu'il agissait, mais en partant, qu'ils mettaient sur eux une mesure extraordinaire. Ils déversaient sur leur vie une puissance extraordinaire qui allait leur permettre d'accomplir des choses encore plus grandes. Amen. Alors tu dois désirer cela. Tu dois dire, Seigneur, je veux accomplir des choses plus grandes que ce que mes pères ont accompli, que ce que les apôtres ont accompli. Parce que le temps dans lequel je vis, ma saison dans laquelle je vis, amen, je vis quelque chose,
Je ne dirais pas de différent parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Mais je vis quelque chose de particulier. Parce que c'est ma saison. Amen. Et dans ma saison, je me rends compte que les choses vont à une vitesse extraordinaire. Nous avons la technologie qui a pris de l'ampleur. Nous avons les réseaux sociaux qui ont pris de l'ampleur. Amen. Nous avons des églises dans les bâtiments. Amen. Extraordinaires. Amen. Nous voyons combien, si nous sommes, nous parlons de la France, nous voyons combien nous avons des églises, des bâtiments dans la vie qui témoignent du christianisme qui a été, mais qui aujourd'hui n'est plus. Amen. C'est notre saison, là. Tu dois discerner dans ta saison ce qui est en train de se passer et le besoin de la ville dans laquelle tu te tiens. Amen. Quel est le besoin de la ville dans laquelle tu te tiens? Quel est son besoin? Parce qu'à l'époque des apôtres, la Bible déclare qu'ils ne pouvaient pas se réunir en public. Parce qu'à un moment donné, ils se sont réunis en public, mais la persécution est arrivée. Et ils se réunissaient dans les maisons pour prier. Amen. En leur saison, ils se réunissaient dans les maisons pour persévérer dans la prière, dans les enseignements. Amen. Mais en ta saison, tu as la liberté. Regardez, nous retrouvons ici bien nombreux. C'est tellement si simple pour toi de quitter ta maison, d'arriver ici. Mais de quoi réellement l'Église a besoin? De quoi réellement cette ville a besoin si tu regardes la saison dans laquelle tu vis? La pluie de la Pentecôte a permis ceci. A permis que toi et moi, nous puissions recevoir Christ dans nos cœurs et nous puissions librement vivre. Parce que les apôtres, eux, ont été persécutés. Ils ont été lapidés pour que toi et moi, nous ayons accès à l'Évangile. Amen. L'Évangile aujourd'hui dont tu parles librement, d'une certaine manière. Mais nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui manque. C'est que l'Église est encore trop, je dirais, elle est encore un peu faible. Elle est encore un peu charnelle. Je dirais même pas un peu, elle est charnelle. Comme un enfant qui vient de naître. Pourtant, Christ doit revenir. Christ ne vient pas épouser une jeune fille qui a, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Christ vient épouser qui? Une femme. L'Église doit devenir une femme. Elle doit entrer dans la maturité. Maintenant, je comprends pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. L'autre message que je voulais apporter, je lance seulement le thème comme ça. Je crois qu'il y a des curieux qui vont aller chercher. Dieu m'a montré la dimension de l'enfantement. L'Église doit entrer dans la dimension de l'enfantement. L'Église doit enfanter des fils. Chose qu'elle ne fait pas pour l'instant. Quand nous regardons l'esprit, l'Église n'enfante pas des fils. Elle enfante quoi? Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, chasse. 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 Mais il a utilisé un terme. Chasse, laisse, esclave. Parce qu'il n'héritera pas avec le fils de la promesse. Chasse l'esclave. Amen. Parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a toujours ce combat. Alors que l'Église est censée impacter l'Église, elle combat entre elles. Parce qu'il y a encore l'esclave. Il y a encore la chair. Les enfants qu'on est en train de faire naître, les personnes qu'on amène à Christ, plutôt qu'elles puissent s'épanouir dans la liberté, elles sont encore esclaves des rudiments de ce monde. Parce qu'on les entraîne dans une forme de religion. Amen. Donc il y a quelque chose que l'Église doit comprendre. Qu'elle doit entrer dans la maturité. Alors elle doit demander différemment au Seigneur. Elle dit, Seigneur, nous voulons vivre. J'ai envie de dire notre Pentecôte, mais nous avons besoin de la pluie du printemps qui est caractérisée par la maturité du fruit. La pluie que Dieu veut déverser en ces derniers temps va emmener les fruits à maturité. Ça veut dire que chaque chrétien que nous sommes va comprendre différemment la vie chrétienne par rapport à comment elle comprenait il y a encore quelques temps. Alléluia. Pendant que l'Église va dire, Seigneur, tu as promis d'envoyer le Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit, ce ne serait plus Seigneur, tu as promis. Ça va être Seigneur, nous le désirons parce que nous savons que nous en avons besoin. Et il y en a qui vont commencer à dire, Seigneur, sans le Saint-Esprit, je ne ferai rien. Amen. Parce que ce que Christ dira aux disciples, c'était un ordre. Attendez, vous recevrez. Amen. Ce n'était pas une option. Attendez. Et aujourd'hui, beaucoup nous arrivons à nous lever sans réellement être investis de l'onction de Dieu. Beaucoup nous arrivons à nous lever sans que Dieu donne la direction. Nous nous levons comme ça par plaisir. Nous nous levons par aspiration charnelle pour faire des choses. Mais il est temps que nous puissions réellement refuser de faire quoi que ce soit sans la puissance du Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit dans ma vie. La Bible dit clairement, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il est temps que tu te poses la question de savoir, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu ou je n'ai pas l'Esprit de Dieu? Et si tu as l'Esprit de Dieu, il n'est pas question que tu ne portes pas du fruit. Alors, si tu ne portes pas du fruit, ça veut dire quoi? Que tu n'as pas chassé l'esclave. Alors, tu dois prendre sur toi, te lever, te dire, Seigneur, comme je dois porter du fruit et que je ne porte pas du fruit, ça veut dire qu'il y a une chose que je n'ai pas encore demandée. Il y a une chose que je n'ai pas encore reçue. Ou du moins, il y a une chose que je n'ai pas encore faite. Et je dois la faire parce que je suis dans ma saison et je dois porter du fruit. Fini de regarder les autres et de rester là seulement pour acclamer les autres qui agissent. Ah, cet homme, il fait de grandes choses. Hein? Mais toi, tu es aussi appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à impacter ton environnement. Tu es appelé à te lever et à bouger ton environnement, à bouger ton entreprise. Mais vous savez, la particularité de la pluie, c'est qu'elle fait croître les bonnes herbes, mais fait croître aussi les mauvaises. La bénédiction de Dieu, quand tu la demandes, elle ne vient pas seulement sur ta maison. La pluie de Dieu, quand elle vient non seulement sur ta maison, mais elle vient aussi autour de toi. Finis de voir le chaos qui est autour de nous. Les personnes qui sont abîmées par la vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Ces personnes sont abîmées autour de toi. Mais tu as un travail à faire, à restaurer ton environnement. Amen. C'est ce que Dieu promet. Je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison. Amen. Fini. Ce temps où nous voyons réellement l'entourage être abîmé. La Bible même nous l'annonce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul le dit. Nous le prenons parfois seulement d'une partie dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. L'apôtre Paul dira, dans les derniers temps, lorsque nous beaucoup diront paix et sûreté, beaucoup verront la paix et la sûreté. Beaucoup se disent, c'est une paix qui est superficielle. Amen. Parce que les États vont s'entendre. Il va y avoir l'entente au milieu des États. Il va y avoir cette simplicité que nous avons de pouvoir nous réunir. Il y a une forme de paix, n'est-ce pas? Une forme de sûreté. Tu te lèves chaque matin, tu vas au travail, tu rentres, tu ne crains pas quoi que ce soit. Tu fais même des projets en disant l'année prochaine, dans un an, dans deux ans. Amen. Sans avoir peur que la mort te frappe demain. N'est-ce pas? Il y a une forme de paix. La Bible dit dans les derniers temps, et beaucoup se contenteront de cette paix. Beaucoup même vont dormir à cause de cette paix. Beaucoup vont, comme l'apôtre l'annonce, dans les derniers temps, beaucoup deviendront fanfarons, amis de l'argent, amis du bien. On va savourer ces bénédictions et abandonner le Seigneur petit à petit. Mais la Bible déclare que après, pendant que les gens diront paix et sûreté, c'est alors que surviendra sur eux. C'est alors que surviendra. Prenons ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 3, la Bible déclare, « Lorsque les gens diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, la Bible déclare, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. » Amen. Ça veut dire une chose, ça veut dire que cette pluie du printemps va emmener une bénédiction extraordinaire, non seulement au milieu de l'Église, mais dans le monde entier. Amen. La bénédiction, Dieu désire la relâcher parce qu'il y en a qui ont compris et qui la demandent. Il y en a qui ont compris, ils ont dit, Seigneur, nous sommes fatigués de voir des stérilités, de voir des misères, de voir des personnes battues, de voir des personnes abîmées par la vie, des personnes être détruites. Et il y en a qui intercèdent et qui prient. L'évangile est prêché, le Seigneur délivre, agit, guérit. Amen. Nous avons des miracles qui sont témoignés. Amen. Il y a une action. Mais Dieu va emmener cela à s'amplifier. Amen. Oui, ça va s'amplifier parce que c'est la promesse de Dieu. Il promet la pluie dans ces derniers temps. Il promet la bénédiction dans ces derniers temps. Et cette bénédiction va toucher dans tous les domaines. Amen. Et ça va venir. Mais l'Église qui est au cœur justement de cette bénédiction parce qu'elle va désirer, aspirer cela, elle va chercher la face de Dieu, elle va vraiment servir le Seigneur, va tirer cette bénédiction. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup qui, dans cette bénédiction, ne voudront pas s'accrocher au Seigneur, seront surpris. Parce que le Seigneur viendra pour enlever son Église et la désolation va s'abattre. Mais nous devons comprendre une chose, qu'alors que ce règne vienne, lorsque nous prions, disant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, le règne de Dieu est là, dans les cœurs de ceux qui l'ont accepté. Mais nous voulons que le règne de Dieu vienne sur tout le royaume. Nous voulons que le règne de Dieu, que la parole de Dieu soit reconnue de tous, que les cœurs soient tous, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que tout genou fléchisse devant lui. C'est ce que nous désirons, le règne de Dieu. Comme il le dit, la réconciliation du ciel et de la terre. Et le royaume de Dieu qui est établi dans le ciel, qui soit établi sur la terre. Amen. Alors que cette paix et cette sûreté est en train de s'installer, la Bible dit néanmoins, nous ne devons pas être distraits. Nous devons travailler. Amen. Alors fini le temps de la distraction, fini le temps de dire que ce n'est pas ma saison, ce n'est pas mon temps. Amen. C'était ton temps, la Bible dit dans Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et je t'avais établi, prophète des nations. Ta saison est arrivée depuis. Tu es déjà dans ta saison, bien-aimé. Mais attention, le Seigneur qui passe par là, s'il voit que tu ne portes pas du fruit, bien-aimé, tu seras maudit. Amen. Alors, veux-tu porter du fruit ou ne veux-tu pas porter du fruit? Veux-tu agir en ta saison ou ne veux-tu pas agir en ta saison? J'ai eu une révolte au-dedans de mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne veux pas vivre sur les histoires, raconter aux gens les histoires. Lors de la Pentecôte, il y a eu 5000 âmes qui ont été converties. Il y a eu ci, il y a eu ça. Ma question de me poser en ma saison, qu'est-ce qui se passe? Amen. En mon temps, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je dois me lever, bien-aimé. Amen. Je dois me lever. Je t'invite à te lever ce matin. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Bien-aimé, c'est ta saison. Fini d'être un enfant dans la foi. Fini d'être un bébé spirituel, celui qui a besoin du lait. Il est temps de manger la nourriture solide. Fini le temps où réellement je ne sais pas ce que tu attends. C'est fini ce temps-là. Il est temps de te lever. C'est ta saison, bien-aimé. Tu dois porter du fruit. Sois un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Et c'est ce que Dieu promet à cette femme samaritaine. Il lui promet l'esprit de manière à ce qu'il fasse d'elle une source. Amen. Dieu veut installer en toi une source extraordinaire. La pluie, ne regardez pas la pluie comme une image, comme si la pluie va tomber du ciel, parce que la Pentecôte, la pluie est tombée du ciel. Non, il y a une source en toi qui doit jaillir au-dedans de toi. Amen. Tu étouffes cela parce que la chair, elle est là. Tu étouffes peut-être cela parce que la mère d'Ismaël est là. Mais la Bible dit, chasse-la, chasse l'esclave, pour que réellement la promesse puisse se manifester. Amen. Dieu dit dans Jean 16, il y a une chose que tu n'as pas encore demandée. Peut-être que tu demandais mal. Peut-être que tu demandais quelque chose sans compréhension. Mais ce matin, Dieu te dit, demande, comme Zacharie le dit, demande la pluie du printemps. Amen. Celle qui amène les fruits à croître. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, non, je ne veux pas vivre ma foi de cette manière. Je n'impacte pas. Les gens autour de moi ne sont pas transformés. Autour de moi, c'est comme s'il y a une mort qui s'installe. Non, Seigneur, il doit avoir la vie de la résurrection qui doit se manifester. Amen. Il y a une puissance de Dieu qui doit se manifester. Alléluia. Ce n'est pas seulement je prie, je dis, Saint-Esprit, viens. Non, non, non. Je dois dire, Seigneur, il doit avoir quelque chose qui est en train de se manifester autour de moi. Si ça ne se fait pas, je dois prendre 40 jours de jeûne et de prière. Amen. Ces 40 jours de jeûne et de prière, ça ne veut pas dire seulement physiquement 40 jours de jeûne et de prière. Ça veut dire que ma mentalité doit changer. C'est-à-dire que je dois entrer dans un désert, me dépouiller. Il y a des choses qui sont peut-être en train de me bloquer, de me limiter. Je dois me dépouiller parce que je dois briser, je dois transformer mon atmosphère. Alléluia. Parce que je dois entrer en maturité. Si Christ revient, je vais être prêt. Amen. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons élever nos mains. Nous voulons réellement demander, Seigneur, ce matin.